Salut et bienvenue sur Le Point Scout. Aujourd'hui, pour notre première interview en podcast, on accueille Baral Engagé du groupe de Perceval à Genève. Salut Baral, comment tu vas ?
Bien et toi ?
Très bien, très bien. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux brièvement te présenter ?
Alors tout d'abord, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Donc merci beaucoup de m'avoir invité. Un plaisir aussi d'être avec vous, chers auditeurs et chères auditrices. Donc, je me présente, je m'appelle Julien Deplanta, alias Baral Engagé. Je fais actuellement un bachelor en sciences politiques, je suis coursier à vélo à côté, et je suis aussi membre au sein du sauvetage de Genève, donc sur le lac Léman. Ça, c'est pour mon côté Julien Deplanta. Pour mon côté Baral Engagé, je suis chef de groupe adjoint au sein du groupe Scout Perceval, coach jeunesse et sport, et je suis en activité au sein de ce groupe donc depuis mes 7 ans.
Et pourquoi Baral Engagé ? Pourquoi ce totem et pourquoi cet adjectif ?
Alors c'est un totem qu'on m'a donné quand j'avais 16 ou 17 ans, donc le totem avec l'adjectif. Pourquoi ? Il faudrait demander aux chefs qui ont choisi pour moi. Maintenant, avec du recul, j'ai l'impression que ce totem et surtout son adjectif a eu une portée performative pour moi. Parce qu'en fait, ça m'a permis tout au long de ma carrière scout de m'engager finalement au sein de diverses activités. Et à chaque fois que j'étais dans une phase de doute, je me disais toujours, tiens, bah, ils ont choisi engager pour moi. Ils avaient certainement une certaine vision de ce que je pouvais apporter et de la façon dont je pourrais évoluer. Et donc, ça m'a toujours aidé à pousser la chose de plus en plus loin, en fait.
Ok, intéressant. C'est un peu comme chez nous. Nous aussi, on a plusieurs adjectifs. Après, c'est vrai qu'on accorde un peu moins d'importance aux adjectifs. C'est peut-être un peu dommage. Maintenant, je vois, enfin, nos auditeurs et auditrices ne voient pas, mais tu as une chemise beige d'éclaireur. Comment ça se fait que tu as cette chemise ? Je suppose que tu n'es plus chef. Pourquoi, à Perceval, est-ce que vous gardez vos chemises éclaireurs ?
Alors, en effet, comme je l'ai dit avant, je suis chef de groupe adjoint, donc ça fait un moment que je ne suis plus aux éclaireurs. En fait, nous, on garde ça par tradition parce qu'on est un groupe qui vient à la base, qui a été créé à la base d'une troupe. Donc, en fait, la troupe s'est formée, ensuite est venue une section, une meute, un clan, etc. Et en fait, par tradition, disons, on garde cette chemise brune, enfin, ou beige, même une fois qu'on est chef. Il y a beaucoup de versions sur le pourquoi du comment. Une des versions veut que chez nous et partout ailleurs, mais disons chez nous, c'est une des explications, on n'a pas ce besoin de faire la différence entre les chefs et les éclaireurs, parce qu'en fait, on le remarque directement. Instinctivement, un chef, il aura une aura et un leadership différent des éclaireurs. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on fait ça comme ça chez nous que c'est forcément plus ou moins bien. En tout cas, disons qu'on l'a gardé par tradition. Ça nous fait plaisir de le garder, ce d'autant plus qu'on en joue un petit peu. Sachant qu'on se fait un petit peu chambrer par rapport à ça, donc nous, ça nous fait plaisir de conserver cette tradition.
Parce qu'à Genève, donc vous avez pas, tous les autres groupes n'ont pas une chemise beige.
Alors quand dans les autres groupes, quand les gens deviennent chefs ou responsables d'une unité, la plupart du temps, ils ont une chemise verte. Maintenant, il y a la flottille qui porte des vareuses puisqu'ils sont sur le lac et qui eux donc ont un ensemble bleu. Et le groupe de la Grande Ourse qui, eux, ont des chemises de couleurs différentes aussi.
Ok, ouais, c'est un peu comme chez nous. On a aussi certains groupes qui gardent donc la chemise beige. Mais c'est vrai que peut-être pour des enfants qui n'ont pas rencontré beaucoup d'autres groupes de Suisse romande, ça peut être quelque chose d'un peu choquant de voir quelqu'un de 23 à 24 ans avec toujours une chemise éclair, entre guillemets. Maintenant, je voulais un peu revenir sur notre rencontre parce que du coup, on s'est rencontrés maintenant il y a à peu près un an au cours Panorama. Est-ce que tu arrives brièvement à présenter ce que c'est que ce cours Pano ?
Alors le cours Panorama, c'est un cours qui arrive à la suite des formations de chefs de camp. C'est un cours qui est un prérequis pour pouvoir devenir coach jeunesse et sport, par exemple. Mais je ne pense pas que toutes les personnes qui le font dans le but de devenir coach, parce que c'est aussi un cours qui est très intéressant, qui amène une certaine ouverture d'esprit. Dans le sens où, en fait, c'est un cours où on va rencontrer beaucoup d'autres scouts de la région romande. Alors, théoriquement, c'est un cours qui est ouvert sur la Suisse en général. Maintenant, dans le côté roman, il y a la plupart des romans qui se concentrent. Et les cours Panorama du côté suisse-allemand, voilà, il y a une majorité de suisse-allemands. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'en fait, entre Genève, le canton de Vaud, et même pas beaucoup plus loin, enfin même Genève et Nyon, finalement, c'est quoi ? C'est 25 km, à vélo, ça fait une heure. On est en fait fondamentalement assez différents, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on a en commun, un esprit, des valeurs qui sont communes et une vision de voir les choses qui peut être des fois différente, qui peut apporter quelque chose à l'autre. Donc en fait, si je peux résumer le cours Panorama, ça serait une grande ouverture d'esprit qui permet d'avancer et de continuer à avancer dans le.
Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Puis aussi, tu parlais donc des cours en suisse allemande, des cours en suisse romande. Il y a aussi un cours trilingue, Panorama, qui a l'air super intéressant, où du coup, le cours est donné dans les trois langues nationales. Maintenant, le groupe Perceval, d'où tu viens, pour nous, il est surtout connu parce que c'est une chanson dans le chansonnier qui s'appelle Perceval. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qui est le groupe Perceval? Parce que pour nous, vous êtes un peu ce groupe emblématique qui a, on ne sait pas pourquoi, a eu le droit d'avoir une chanson dans le chansonnier. Raconte-moi un petit peu qui c'est le groupe Perceval, qui vous êtes.
Alors, je te rejoins totalement sur le côté emblématique, je pense que on n'en doute pas. Maintenant, plus sérieusement, donc, la chanson est dans le chansonnier parce que, à l'origine de la création de ce petit roman, dans l'équipe, il y avait un ancien chef de chez Perceval, de chez nous, qui a insisté pour une raison X ou Y pour mettre cette chanson. À ma connaissance, on est les seuls à avoir notre chanson dans le chansonnier. Donc évidemment ça fait rire aussi beaucoup de gens autour de nous, je pense que, enfin autour de nous au scout à Genève. Maintenant j'imagine qu'on est effectivement les seuls à utiliser cette page. Ça m'étonnerait que d'autres groupes se soient amusés à apprendre notre chanson. Maintenant c'est vrai que dans la nouvelle mouture il me semble est en cours du petit roman, ça pourrait être intéressant d'avoir aussi les chansons des autres groupes, à condition qu'ils les aient et qu'ils aient éventuellement une mélodie qui va avec ou autre.
Je trouve que vous avez une très belle relation à Perceval avec les anciens de votre groupe. Par exemple, j'ai vu que vous avez une association, groupe Perceval. Vous avez fêté les 70 ans du groupe avec énormément d'anciens qui étaient présents. Il y a eu la réouverture de la patrouille Koala, où là aussi vous avez organisé un repas avec des anciens. Comment ça se fait que vous avez cette aussi belle relation avec des anciens et comment vous y prenez pour la garder ou la préserver?
Alors je pense qu'il faut une certaine diplomatie, je dis ça un peu en souriant, parce que donc les anciens, on n'a pas tous le même âge, logique, on n'a pas tous la même vision du monde et on n'a pas tous la même vision du scoutisme. Donc c'est en fait, ils nous apportent énormément, donc nous, ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir continuer à avoir des bons contacts avec les anciens. On trouve important en fait d'aller chercher nous les réponses vers eux et d'aller chercher vers eux ce qui nous paraît pertinent et de faire après le tri. Évidemment qu'il n'y a pas tout qui est bon. Maintenant, c'est une richesse assez phénoménale, je trouve. Surtout qu'on se rattache, en fait, nous et ainsi que les anciens, à l'amour commun qu'on a pour notre groupe, qu'on a pour l'histoire de notre groupe. Donc c'est vrai que finalement, ça marche assez bien. Et en fait, c'est assez bête ou assez basique à dire, mais malgré tout, les anciens, ils ont une certaine sagesse, une certaine expérience de la vie. Qui fait qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Maintenant, en effet, donc on a créé une association pour les anciens. Donc ça, c'est pour créer une sorte de vivier de connaissances d'outils que les différents chefs d'unité pourraient utiliser. On a aussi fait donc les 70 ans du groupe, comme tu l'as dit. C'était un gros événement. Il y a énormément d'anciens qui sont venus. Il y avait des anciens qui avaient jusqu'à 80-90 ans. Qui sont venus nous voir la larme à l'œil en nous félicitant et en nous disant à quel point ça leur faisait plaisir de en fait revoir des gens qui finalement ils n'avaient pas vu depuis 20, 30 ans, qui ne reverraient certainement jamais. Donc c'est aussi quelque chose qui donne du baume au cœur et qui nous donne envie de continuer à avoir cette relation assez spéciale finalement avec les anciens. On a réouvert aussi la patrouille des koalas, alors on l'a fait au sein de la troupe. Maintenant on a. Comment dire? On s'est aidé entre guillemets des anciens en choisissant une patrouille qui eux leur faisait aussi en partie un peu plaisir. C'est une patrouille emblématique. C'est ce qui nous a permis notamment après de faire donc ce fameux repas avec des anciens koalas qui eux ont pu. En fait, le but était que les anciens koalas puissent transmettre le flambeau aux nouveaux, donc aux nouveaux qui viennent de rentrer dans cette patrouille fraîchement réintégrée à la troupe Perceval. Donc c'est quelque chose en fait qui nous tient particulièrement à cœur. Ça marche bien. On a aussi énormément d'archives, donc on arrive à se projeter finalement des années en arrière, se rendre compte que les fondements sont là, sont encore là actuellement. Ça nous fait plaisir de voir aussi que finalement nous on n'a pas tant changé que ça. Et puis voilà, c'est, moi je pense que c'est une relation win-win à partir du moment où on arrive à bien la gérer. Faut être respectueux dans les deux sens et je pense que ils nous donnent beaucoup et on leur a aussi apporté beaucoup.
Ah, c'est beau, puis ça rejoint un peu ma prochaine question. C'est que j'ai vu que vous accordez aussi beaucoup d'importance à l'histoire de votre groupe et du scoutisme en général, avec par exemple votre restauration d'archives. Déjà, c'est quoi ce service que vous proposez? Et puis, selon toi, ça vous apporte quoi de proposer ce service?
Alors pour l'instant, c'est un service qu'on l'a mis à disposition sur notre site. Pour l'instant, il n'y a encore personne qui nous a contacté pour ce faire. En fait, c'est à la suite du 70e. Donc, on a restauré avec mon camarade Vittorio Foglia, alias Coyote Serviable, plus de, et d'autres personnes du groupe d'ailleurs, on n'était pas que les deux, plus de 10 000 diapositives en fait. Et on s'est rendu compte à quel point les souvenirs et ce qui s'est passé avant, en fait, c'était riche d'apprentissage, d'émotions et juste de jolies photos aussi, tout simplement. Et en fait, on s'est dit qu'on pouvait proposer, si jamais des gens avaient envie qu'on leur restaure, puisque maintenant on est assez rodé, si des gens avaient envie qu'on leur restaure des diapos ou autres, bah en fait, étant donné qu'on a investi dans une machine pour cet événement, on s'est dit qu'on pouvait proposer le service à d'autres personnes. Maintenant, pour l'instant, personne n'a encore réellement fait appel à nous. On a déjà un peu numérisé pour la famille ou autre, mais ça reste quand même très local. Maintenant, nous, c'est vrai que au sein du groupe, en fait, on a la chance d'avoir une base d'archives qui est très conséquente. Là, en ce moment, on travaille pas mal, ou en tout cas, on est en très bon contact avec l'archiviste de l'association du scoutisme genevois qui s'appelle Monsieur Maillard. Et en fait, on a été voir ses locaux et il nous a expliqué qu'il nous a montré une armoire. Il a 3, 4, 5 armoires, 6 armoires, je dirais. Pour tous les scouts du canton, il y a une armoire qui est que pour nous, voire deux. Donc en fait, étonnamment, on a gardé toutes ces archives. Enfin, c'est un groupe qui est resté uni dès la création et c'est ce qui fait qu'en fait, maintenant, il a une identité très forte. Et c'est aussi, je pense, en partie pour ça qu'on est attaché à tout ça parce qu'on n'a pas envie de le perdre, on n'a pas envie d'être la génération qui aura tout perdu au final. Et j'imagine que ça se perpétuera, on l'espère, le plus possible.
Ah, c'est très intéressant ce que tu dis et je pense que ça explique aussi la belle relation que vous avez avec vos anciens. Ça me fait penser à nous, on a retrouvé un film des Scouts de Nyon qui date de 1970 avec des jeunes qui partent en kayak et qui font un camp à cheval. Et c'est vrai que ça nous a permis de nous rendre compte que notre groupe va beaucoup plus loin que ce que nous on fait et puis que c'est quelque chose qui a eu un gros impact sur énormément de personnes, et puis qu'on veut essayer de faire en sorte que ça perdure et que ça continue. J'ai vu aussi sur votre site web que vous n'avez pas de picot. Est-ce que les éclats passent directement chef? Et puis est-ce que c'est le cas dans tous les groupes à Genève qu'il n'y a pas de picot?
Alors on a encore un canton où effectivement par rapport au canton suisse allemand il y a beaucoup moins de picots. Maintenant c'est en train d'être instauré petit à petit. Il commence à y avoir plusieurs groupes à Genève qui proposent les picots. C'est vrai qu'au sein de notre groupe et donc de notre troupe et notre section, puisque c'est l'âge à laquelle on devrait avoir des picots, pour l'instant on n'en a pas. Ça vient en partie peut-être d'un manque d'effectifs ou peut-être d'un manque de vision réelle de ce qu'est les picots. Maintenant, je sais qu'à titre personnel, je trouve que le format des éclaireurs d'une troupe et d'une section, donc de 12 à 17 ans, marche assez bien. Chez nous, ça marche bien. Le jeune de 17 ans va être amené à beaucoup plus pousser celui de 12 ans, qui va être amené à surpasser pour essayer d'arriver à celui de, enfin, pas à la hauteur, mais de rendre fier celui de 17 ans. Et donc, je trouve que c'est un format qui fonctionne bien. Après, peut-être qu'un jour les picots seront amenés à exister au sein du groupe. Pour l'instant, je ne suis pas persuadé. Maintenant, c'est un format qui est aussi intéressant. Mais après, en effet, si on était 2 ou 300, ou je sais pas, j'extrapole un petit peu, mais si on était 150, 200, peut-être que là, ça serait plus pertinent déjà d'avoir des picots. En termes d'effectifs, je pense qu'on perdrait en qualité si on créait les picots, en tout cas à l'heure actuelle.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, nous, ce qu'on a eu fait au canton de Vaud dans ces cas de figure-là, c'est que plusieurs picots de différents groupes se réunissent et forment en fait un espèce de poste picot intergroupe. Et ça permet aussi de créer des liens entre les groupes. Donc ça, c'est aussi une option que je trouve intéressante aux groupes un peu plus petits et qui n'ont pas la possibilité de créer des groupes chez eux.
Donc ça, c'est certainement aussi un inconvénient potentiel au fait que notre groupe il a une identité très forte et marquée, c'est qu'il se mixera peut-être moins facilement avec d'autres groupes.
Ouais, effectivement. Comment, bah, vu qu'on parle un petit peu de Genève, comment s'organise l'association du scoutisme genevois? Vous faites par exemple combien d'activités tous les groupes de Genève ensemble? La formation des responsables s'organise comment?
Alors il y a un diagramme qui est relativement compliqué que je pense que je vais vous épargner parce qu'il n'est pas spécialement intéressant. Maintenant, au final, les associations sont toutes plus ou moins gérées de la même façon avec plus, enfin, différents postes à plus ou moins haute responsabilité. Nous à Genève, on a deux responsables cantonaux qui s'occupent un petit peu de tout ça avec les permanents. Enfin, il y a beaucoup d'entités qui gèrent en fait l'association du scoutisme. Il y a aussi pour les citer, la patrouille, la Cisène, qui gère, donc la patrouille s'occupe de tout ce qui est en lien avec les troupes, enfin, les troupes et les sections du canton. La Cisène s'occupe des meutes, des rondes et autres. Donc voilà, il y a tous ces groupes et instances qui chapeautent un petit peu au niveau cantonal. Et tous les chefs de groupe sont amenés à siéger relativement fréquemment à des conférences cantonales où là on discute de tout ce qui se passe au niveau cantonal, on est amené à donner notre avis, à voter et autres. Maintenant pour ce qui est des formations, donc les formations sont dispensées par les équipes cantonales, les équipes de branche. En général il y en a une par année à Pâques pour ce qui est des formations M1, M2, donc chez vous c'est...
Licence A et licence B.
Voilà. Donc ça c'est des formations qui ont lieu en général à Pâques. Maintenant, on essaye d'ouvrir de nouvelles formations, enfin de nouvelles dates pour ces formations en question. Typiquement, cette année, il y en aura une qui aura lieu en novembre. Ça permet à ceux qui ne sont pas disponibles pendant les vacances de Pâques ou qui ne peuvent pas prendre les vacances de Pâques de caler ça sur des week-ends. C'est contraignant d'une façon différente, donc disons que ça permet d'ouvrir un peu le champ des possibles. Après, évidemment, il y a des formations de comptabilité qui sont données au sein de l'ASG, donc en fait, on a un centre scout, donc une localisation du centre qui est rue Pré-Jérôme, donc au centre-ville à Genève pour ceux qui sont situés à côté de Plainpalais. Et c'est un peu de là que beaucoup de choses partent et que tout est centralisé. Il y a beaucoup de groupes qui vont aussi y travailler si jamais leurs locaux sont trop petits. On a accès à de l'informatique, à des imprimantes et autres. Et voilà, je crois.
Ouais, je trouve très intéressant. Je trouve très intéressant parce que nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment sur le canton de Vaud, parce qu'on est quand même un canton qui, au niveau de la superficie, est beaucoup plus grand. Et puis, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment un local de l'association cantonale vaudoise. Et donc, on est un petit peu moins unis, parce que moi aussi, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'ai fait le cours Panorama avec toi. Tous les scouts genevois, vous vous connaissez, tandis que sur le canton de Vaud, bah, on ne se connaît pas forcément parce qu'on ne se voit pas forcément souvent, on n'a pas un endroit comme vous avez près de Plainpalais pour se retrouver.
Alors c'est vrai que la plupart des chefs en fait se connaissent, se rencontrent, surtout à travers les différentes formations qu'on a, étant donné qu'on les fait uniquement entre Genevois. Donc là on est amené évidemment à rencontrer. En fait chaque année il y a une volée de chefs différente et on est amené à rencontrer toute notre volée assez vite. C'est d'autant plus qu'il y a des activités cantonales, comme le challenge par exemple pour les troupes, les sections, donc éclaireurs et éclaireuses. À ce moment-là on rencontre un petit peu tout le monde et en fait... Mine de rien, malgré le fait qu'on a l'impression que par rapport à Nyon, on est une grande ville, c'est quand même un microcosme à Genève. Ce qui fait en fait, on a vite fait le tour de toutes les personnes qui sont chefs à Genève.
Tu trouves pas que c'est dommage que on connaisse si peu de scouts d'autres cantons?
Alors oui, maintenant, je pense que c'est déjà compliqué de connaître tous les scouts de son canton et de s'organiser avec tous les scouts de son canton. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des affinités différentes qui se créent selon les personnes. Le cours Panorama est un bon exemple de quelque chose de positif à ce niveau-là. Maintenant, par exemple, si dans ta vision des choses, tu imaginais des activités intercantonales, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être sympa, surtout qu'il y a des beaux endroits à voir dans un canton comme dans l'autre. Maintenant, je ne sais pas ce que ça demanderait en termes d'organisation, ça pourrait être certainement très appréciable. C'est certainement, bah, en fait, je pense que l'initiateur de tout ça serait le cours Panorama et permettrait de créer des connexions. Et après, peut-être, au lieu d'organiser simplement quelque chose au niveau cantonal, où finalement, peut-être qu'on ne serait pas forcément beaucoup amené à se voir et à se rencontrer, bah, peut-être faire des trucs entre groupes de différents cantons, c'est déjà peut-être plus pertinent. Parce que, en fait, si tu fais juste des, à mon sens, si tu fais juste des grosses activités cantonales avec plusieurs cantons, bah, peut-être que c'est au final un peu superficiel comme rencontre et que t'es pas amené à réellement travailler et discuter avec les chefs des autres cantons. Ce qui est un des points très positifs donc du Panorama, c'est que tu es amené à travailler avec, enfin, même si c'est une semaine assez tranquille, tu es quand même amené à réfléchir et à donner des pistes de réflexion différentes entre les différents chefs des différents cantons, en fait.
En parlant d'activités qui réunissent plusieurs cantons, est-ce que le groupe de Perceval a prévu de participer au camp fédéral MOVA de l'année prochaine? Si il a lieu, bien entendu.
Alors nous, malheureusement, on va pas y participer, pardon. Mais je sais déjà qu'à Genève, il y a beaucoup de groupes et autres qui, enfin de groupes, pardon, qui vont y participer. Pour lui faire un petit clin d'œil, il y a notamment ma cousine qui fait partie de l'organisation. Elle travaille dans un secteur un peu juridique, disons, et elle, avec son groupe, ils vont y aller. Donc je sais déjà qu'il y a une envie particulière de certains groupes genevois d'y participer.
Genève sera donc représentée au Camova.
Alors en plus ou moins grande force, on verra.
J'ai lu dans votre journal, bah, j'ai vu donc que vous avez un journal de Perceval, trouvable sur le site internet donc groupeperceval.ch. Dans ce journal, vous parlez que vous avez réinstauré la promesse dans votre groupe. Donc dans la dernière édition de votre journal qui date de mars 2020, si je ne me trompe pas. Tout d'abord, ma question, c'est comment se fait-il que la promesse ait momentanément disparu? Et puis, ça représente quoi pour toi, de l'avoir réinstaurée?
Alors tout d'abord, petite parenthèse sur le journal avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est un journal qu'on a essayé de relancer aussi parce que, en fait, à l'époque, on faisait carrément, enfin quasiment un hebdomadaire. Enfin, la troupe faisait presque un hebdomadaire. Ils faisaient ça au stencil, donc c'était une autre époque, une autre technique, mais ça marchait bien. Ils faisaient ça toutes les semaines, les mercredis. Nous, avec nos modestes moyens, les technologies ont évolué, mais voilà, le temps qu'on a à disposition est peut-être différent. On essaye en fait de le relancer, on essaye d'en faire un par année. Maintenant, pour l'instant, depuis ça fait 2 ans qu'on l'a relancé, donc on en a fait deux. On l'a relancé à l'occasion du 70e, donc c'était l'occasion de en fait relancer beaucoup de choses. On va essayer de tenir ça et c'est quelque chose qui nous fait particulièrement plaisir parce qu'en fait on a énormément d'archives qui sont liées aux journaux et dans lesquelles quand on les feuillette. On peut sentir un peu l'ambiance, l'émotion, qui faisait quoi à quelle époque. Donc on trouve que c'est, en plus des photos, quelque chose de très intéressant. Maintenant, pour répondre à ton autre question concernant la promesse, en fait, alors je sais pas vraiment pourquoi, mais il s'est avéré qu'à un moment donné, la promesse, au sein de la troupe, est devenue quelque chose de presque élitiste et en fait. Quelque chose de carrément inatteignable. On avait l'impression qu'il fallait pondre une thèse de doctorat pour réussir, enfin pour faire en fait sa promesse. La préparation nous semblait en fait beaucoup trop compliquée, ce qui fait que ça faisait peur à beaucoup. Moi, le premier, quand j'étais aux éclaireurs, je ne l'ai pas faite parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose de beaucoup trop intense, disons. Pourquoi est-ce que ça a évolué comme ça? Je ne sais pas vraiment. Maintenant, on s'est quand même rendu compte qu'on s'est écarté de l'idéal de la promesse, qui n'est pas censé être quelque chose de scolaire, disons. Surtout que, au vu de la façon dont on l'a relancé, on pense et on trouve que c'est quelque chose d'assez essentiel. En fait, au final, c'est un accomplissement de la vie d'un scout ou d'une scout. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une grande réflexion aussi sur nous-mêmes. Donc, on trouvait dommage qu'elle n'ait plus lieu et qu'elle ne soit plus facilitée comme avant. Donc, ce qu'on a fait pour la relancer, c'est qu'au final, on l'a facilitée, on l'a remodelé à la façon en lisant typiquement Scouting for Boys de BP. On a pioché les idées qui nous semblaient intéressantes et pertinentes Et on l'a remise en fait un peu au goût du jour pour que maintenant, tous les ans, les éclaireurs soient amenés à faire leurs promesses, à y réfléchir, et que idéalement, bah, elles ne disparaissent plus ou elles ne s'amenuisent plus, dans les années à venir.
Avec tu parles de BP, j'ai pu lire ta promesse qui était dans le journal de Perceval, et j'ai beaucoup aimé en particulier donc cette phrase que BP a écrite dans sa lettre d'adieu: essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée, et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. Est-ce que c'est dans cet esprit que tu as lancé les courses à domicile pour Perceval?
Alors, je suis ravi que tu reviennes sur cette phrase parce que je pense que c'est effectivement une phrase qui est très lourde de sens. Pour moi, elle évoque aussi beaucoup le côté altruiste en fait qu'on développe au scout. Et pour moi, c'est une des qualités premières qui fait un bon scout en fait. Donc, je suis ravi que tu l'aies souligné. C'est un petit peu dans cet esprit effectivement qu'on a lancé les courses à domicile avec tout mon groupe. En fait, mon chef de groupe, donc Vittorio Foglia, que j'ai mentionné plus tôt, était tessinois et a vu les scouts de Biascia faire ça. Donc en fait, ni une ni deux, on a vu ça, on s'est dit tiens, on va lancer direct. On a vu ça le samedi, le lendemain c'était parti. Et c'était quelque chose qui était en fait. C'était difficile de plus coller à l'esprit du scoutisme, à l'esprit de la promesse, de la loi, qu'avec cette action en fait. Elle était presque enfin, faite pour dessiner pour en fait, cet esprit du scoutisme. Donc nous, on a saisi l'occasion et effectivement, c'est dans cet esprit qu'on a lancé tout ça.
Et donc pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, ça consistait en quoi cette action et ce service de course à domicile? Est-ce que tu peux brièvement un peu retracer le pourquoi du comment il s'est mis en place?
Alors donc on a proposé, d'ailleurs comme vous avec les scouts de Nyon, on a proposé des courses pour les pères, donc des courses à domicile évidemment gratuites, enfin on faisait ça de façon totalement bénévole, pour les personnes à risque durant la période de pandémie du coronavirus, donc au début, à un moment où bah, finalement il y avait peu de choses qui étaient mises en place, donc on était en fait avec les scouts, on était un peu les précurseurs de ce mouvement en toute modestie, hein, parce que on s'attribue pas tout le mérite, mais on était un peu précurseurs de tout ce mouvement qui a émané ensuite, ce mouvement d'entraide et de solidarité. Donc en fait, pour recentrer la question sur la façon dont on faisait les courses, comment ça s'est passé, pour être tout à fait honnête, la première fois on a pris des caddies, on s'est dit bon. On a reçu quelques commandes, 4-5 commandes, on a fait les courses, on les a livrées en voiture. On ne se rendait pas compte, en fait, à terme, enfin, plus on avançait de l'afflux de personnes, en fait, qu'il y aurait. Parce qu'on a commencé avec 4 ou 5 commandes. Donc on allait, on faisait les courses, on livrait chez la personne avec un bulletin de versement, elle pouvait payer comme elle voulait. Évidemment, on évitait le cash pour toutes les raisons d'hygiène. On faisait ça avec un masque, des gants, enfin, tout ça, on était assez bien rodés. On a dû le mettre en place. Au début, c'était pas forcément optimal. Maintenant, on a réussi avec l'expérience à le faire bien. Et on a réussi à aller jusqu'à presque 40 commandes à livrer en vélo en plus. Parce qu'au début, on était en voiture, mais on s'est rendu compte que déjà, c'était pas pratique. En plus de ça, c'est pas forcément dans l'esprit scout, surtout si on a la possibilité de le faire à vélo. Moi, comme je l'ai dit plus tôt, donc je suis coursier à vélo. Mon patron, il a eu la gentillesse et l'amabilité de me prêter un vélo cargo. On a reçu des gens nous ont donné des remorques de vélo, ce qui nous a permis en fait de faire toutes les livraisons à vélo. C'était beaucoup plus efficace, écologiquement beaucoup plus agréable. Enfin, je veux dire que ça, dans le processus de course, c'était assez une révolution. Ça nous permettait en fait de faire ça en flux tendu. Donc il y a des gens qui faisaient les courses, toujours des binômes de deux, et devant chaque point de vente, il y avait deux coursiers. Et du coup, les coursiers, ils livraient en continu. Donc on a réussi à faire, quand on a fait au maximum 35-40 livraisons, on a fait ça en 3 heures quoi. Donc c'est vrai que c'était assez efficace, c'était
Wow.
assez cool. Ce d'autant plus que aussi, il faut le dire, bah, nous on a un tempérament assez hyperactif, peut-être que c'est dû au scout aussi en partie. Donc ça nous a permis aussi de sortir, on se voyait mal rester là, enfin, rester regarder la situation, en fait, les bras croisés. Je pense que c'est aussi quelque chose qui vient de l'éducation scout qu'on a eue. Et c'est peut-être aussi, je pense, pour ça qu'on a réagi en premier, parce qu'en fait, on est, comment dire, on est amené à réfléchir de cette façon tout au long de notre existence scout. Et quand on sent qu'il y a un moment, bah, tac, là, on savait qu'il fallait aider, on savait ce qu'il fallait faire, et donc ça s'est fait hyper vite. Parce qu'on a tout ce passif scout, et je pense aussi, bah, on a vu les réactions des gens après coup qui étaient très positives envers tout ce qu'on a fait. Bah, les gens, ils se sont rendus compte, en fait, à quel point on pouvait être utile à la société, puis c'est arrivé, en fait, à point nommé. Quand on a lancé ça, c'était exactement ce qu'il fallait au bon moment, pour les bonnes personnes. Enfin, on aurait toujours pu mieux faire, mais je pense que c'était assez, comment dire, en fait, pour moi, c'était presque un sans faute. L'action scout pendant le corona a été, je pense, d'une grande aide pour beaucoup.
Je pense que ça nous a permis un peu de redorer le blason scout et de remettre un peu le scoutisme au goût du jour ou dans l'actualité, parce que c'est vrai que certaines personnes pensent que le mouvement scout est un mouvement qui est en baisse. Est-ce que tu penses que on a saisi cette occasion aussi, enfin, un des résultats d'avoir saisi cette occasion pour venir en aide a permis de remettre un peu ouais, le scoutisme dans l'actualité et que les gens se rendent compte de qu'est-ce qu'on est réellement.
Alors, en effet, déjà, ça a permis de contrebalancer un petit peu ce cliché des scouts qui vendent des cookies. Et au final, on a réussi à se rendre utile pour la population dans son entier. Donc, je pense que les gens, ça les a fait réaliser que, effectivement, on avait des compétences, en fait, qu'on a acquis tout au long de notre parcours, qui étaient, bah, comme je l'ai dit avant, qui, à cette occasion-là, ont été mis en service de façon extrêmement rapide. Maintenant, aussi, j'invite ceux qui pensent que le scoutisme est en perte de mouvement ou en perte d'adhérents, disons, à se renseigner peut-être, parce que je trouve dommage de penser que c'est quelque chose de dépassé, sachant que c'est un mouvement qui a de très belles valeurs, surtout en plus qu'on voit dans les chiffres qu'il y a de plus en plus de scouts. Alors, il y a des hauts et des bas tout le temps, c'est pareil dans les groupes, c'est pareil dans les unités. Maintenant, je pense que si ça perdure et que ça fait déjà plus de 100 ans que c'est là, c'est que finalement, il y a des fondements que les gens apprécient et qui évoluent, enfin pardon, qui s'adaptent à la société qui évolue.
Ouais, puis tu rejoins un peu la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as été surpris donc par cet élan de solidarité ou pour toi c'était quelque chose que tu imaginais qui allait de toute façon se
Alors là, c'est
produire?
un grand débat philosophique. Ça dépend si on pense que l'homme est profondément bon ou profondément mauvais. Moi, malheureusement, j'ai plutôt tendance à penser qu'il est mauvais. Donc, j'étais plutôt surpris en bien, ça m'a fait très plaisir. Maintenant, il faut continuer, en fait, même si on pense que l'homme est mauvais de base, c'est un postulat que, enfin, chacun a ses postulats de base, il faut quand même continuer à aller dans un sens, dans le bon sens, en fait, pour que ça fasse des vagues, en fait, et que finalement tout le monde s'oriente plus dans cet état d'esprit-là que dans un autre. Maintenant, oui, ça m'a surpris. En même temps, j'imaginais bien qu'il n'y avait pas tout le monde. Parce qu'en fait, il y a aussi un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que c'était une crise qui nous forçait, entre guillemets, à rester chez nous. Donc je me doutais bien que tout le monde n'allait pas réussir à rester chez soi sans rien faire. Donc ça a fait émaner beaucoup de positifs. Maintenant, ça a fait émaner aussi beaucoup de. Enfin, il y a eu aussi des choses négatives qui se sont passées pendant cette période, mais. Mais je pense qu'en effet, comme les gens aussi en fait s'ennuyaient, avaient besoin de montrer qu'ils pouvaient faire quelque chose aussi, bah faire quelque chose pour les autres, au final, c'était ce qui paraissait peut-être le plus logique.
Dans la mise en place de votre service de course à domicile, est-ce que tu as eu l'impression d'être soutenu par les membres de ton groupe, ta commune et ton association cantonale tout au long de donc la mise en place de ce projet?
Du coup, ouais, on a été largement soutenus et encouragés dans notre démarche. Notamment, je te parlais avant des anciens, bah, c'était les premiers à réagir sur les réseaux sociaux et autres, à nous soutenir, à nous montrer, enfin, à nous dire qu'on allait dans le bon sens, que c'est bien ce qu'on faisait et à nous encourager à continuer. Donc, à ce niveau-là, on a été bien soutenus. Je dois dire que c'était assez agréable. Et puis, en fait, au final, c'était une sorte de retour. très très bienvenue, disons, et qui nous donnait envie de continuer, et qui nous faisait plaisir, et qui nous faisait sentir que bah, ce qu'on faisait, c'était pas juste du vent, quoi. Et comme on l'a dit précédemment dans l'émission, ça a vraiment permis de crédibiliser le mouvement scout, en tout cas localement, ponctuellement. Et bah, typiquement aussi, enfin, les personnes qui m'entourent, que ce soit mes amis ou cercles plus ou moins proches qui ne sont pas du tout affiliés à ce monde scout, on peut quand même se rendre compte que, bah, au final, on apprend beaucoup de choses et on fait des choses qui ont du sens et qui méritent d'être montrées au final au scout. Après notre association, alors je sais pas comment ça s'est passé dans votre canton, enfin dans ton canton. Maintenant, nous, c'est vraiment à Genève, c'est un mouvement qui est venu et qui est parti des groupes en fait. Et c'est quelque chose comment dire, qui au final est assez logique en fait de mon point de vue, parce que la force de l'association, au final, l'association est juste là pour apporter éventuellement un statut juridique ou un cadre. Mais au final, la force de l'association, c'est les groupes. Donc je trouvais assez beau au final que dans cette période de crise, on s'est rendu compte que les forces, elles étaient dans les groupes. Et que au niveau des groupes, en fait, on a vraiment réussi à faire quelque chose de bien, à se coordonner entre nous. Et voilà, ça a énormément marché. Alors pas tous les groupes de Genève ont pu se permettre de faire ces livraisons, mais quand même une grande partie. Et on a réussi à se coordonner, donc ça faisait plaisir à voir. Pour revenir un petit peu juste en arrière, tu m'as demandé donc de quelle façon on a été soutenu par les différents groupes, communes ou associations. Moi, je voulais juste souligner un message qu'on a reçu d'un ancien en fait qui nous a fait particulièrement chaud au cœur. Alors, je vais vous le lire. En gros, il nous remercie d'avoir fait ce qu'on a fait, et je trouvais particulièrement intéressant le ton qu'il a employé en fait. Donc, je cite: Encore une fois, un grand merci pour ces BA de grande envergure. On pourrait dire que vous faites honneur au foulard que vous portez, mais je dirais que c'est l'inverse et que c'est un honneur que d'avoir pu porter le même foulard que vous et que vous mettez si bien en valeur. Chapeau le groupe, continuez. Je trouvais hyper intéressant en fait cette inversion où on a plutôt tendance à être fier de nos origines, à être fier de comment le scoutisme a évolué au sein de notre groupe. Et là en fait j'ai trouvé que ce message était particulièrement touchant parce que la personne en question se disait: mais en fait c'est moi qui suis fier de vous. Et pour moi, c'est une inversion qui est assez forte parce que les anciens peuvent parfois être avares en compliments, hein, on les connaît. Et là, j'ai trouvé vraiment que c'était un message qui nous a fait chaud au cœur. J'avais particulièrement envie de le souligner, quoi.
Ouais, c'est beau, c'est beau. On a aussi ouais, reçu pas mal de messages comme ça. Ma prochaine question, et je pense que elle rejoint un peu le message que tu as reçu. Est-ce qu'il y a un moment en particulier pendant votre action qui t'a touché plus particulièrement peut-être que d'autres?
Alors, c'était une action globale, donc il n'y a pas vraiment de moments particuliers qui m'ont touché, si ce n'est que toutes les interactions qu'on avait avec les gens étaient particulièrement agréables. Ce qui est marquant, c'est le sourire des gens que, enfin, donc pas nôtre, parce qu'on était derrière un masque, mais le sourire que certaines personnes qui n'étaient pas masquées pouvaient avoir. En fait, juste, on se rendait compte simplement qu'on les aidait de la façon la plus pure possible. Ils étaient totalement reconnaissants. Il y a des gens qui nous ont évidemment écrit des lettres, des textes, etc. Pour nous remercier, mais simplement voir le visage des gens, leur sourire, si jamais ils n'étaient pas masqués, leurs yeux, à une distance respectable évidemment, c'était en fait pour moi la chose la plus forte. Et pour citer un petit peu un exemple un peu plus précis, bah, on a eu l'occasion de faire les courses pour la mère d'un ancien Percevalien. Donc ça aussi c'était en fait assez touchant parce qu'au final en plus d'aider les autres, bah on aidait directement quelqu'un qui avait fait partie en fait du même mouvement que nous. Et c'était assez beau.
Ouais, mais non, ça, c'est moi aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué, cette reconnaissance que les anciens, enfin les anciens dans le sens les personnes âgées qu'on aidait, parce que c'est surtout elles qu'on a aidées au final, cette reconnaissance qu'ils avaient envers nous, parce qu'il y a un peu souvent cette stigmatisation que les jeunes ne font rien pour les plus vieux, et là ils étaient vraiment émus. Moi je me souviens par exemple d'une dame qui a commencé à pleurer au téléphone avec moi, et moi j'étais, enfin. Je savais plus quoi dire. J'étais vraiment, ça m'a touché.
Alors là, je te rejoins totalement dans ce côté reconnaissance. Et en fait, je pense que Le scoutisme, peut-être au vu de ma modeste expérience et de ma modeste connaissance du sujet et de l'histoire du scoutisme, avait assez besoin, en fait, je trouve actuellement, enfin, avait ce besoin de reconnaissance qui, je trouve, a été. Parce que bon, là, on parle au niveau suisse-romand, genevois, vaudois, mais en fait, au niveau mondial, il y a énormément d'actions qui se sont mises en place de la part de groupes scouts de tous les pays. Et en fait, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le scoutisme avait besoin de cette revalorisation, ce besoin de reconnaissance, et il a montré, enfin, il a fait ses preuves, il a montré à quel point, en fait, il était bénéfique pour la société. J'ai un exemple, avec notre page Facebook, on a reçu, en fait, suite à la diffusion de la vidéo sur le léman bleu et autres apparitions qu'on a
Vous
fait.
l'avez eu comment l'apparition sur l'élément bleu?
Ouais, c'est vrai, j'ai oublié en plus.
Non, pour la petite anecdote, cette apparition sur l'élément bleu, en fait, l'élément bleu m'ont appelé, et puis vu qu'on était un peu submergé par les apparitions dans les médias, je me suis dit, ah, j'ai un ami percevalien qui sera très content de passer dans l'élément bleu. J'ai appelé Baral et.
C'est qu'on a fait genre quasi 200 000 vues, hein. Donc suite à cette apparition dans l'élément bleu et enfin autres médias, en fait il y a des gens qui nous ont contactés sur, enfin des scouts du monde entier qui nous ont contactés sur notre page Facebook pour nous dire tiens il y a un scout de Turquie qui nous a envoyé des photos où il montrait qu'ils étaient en combinaison et ils désinfectaient les rues, les arrêts de bus, un truc. Enfin, beaucoup de gens en fait nous ont montré des preuves, des photos, des vidéos d'actions qu'ils ont effectuées au niveau local à travers ce prisme du scoutisme. En fait, bah voilà, ça rejoint très bien le scoutisme avait besoin de reconnaissance, je pense, et a montré à quel point ses valeurs étaient fortes et intéressantes pour la société, en fait.
Tu penses que cette crise sanitaire aura un impact positif à long terme au niveau social, par exemple la solidarité, on en a pas mal parlé, et environnemental, on a vu les baisses de tourisme, de masse, etc. Quel est ton avis là-dessus?
Alors, je pense que c'est très utopique de penser que ça va changer du tout au tout. Maintenant, c'est pas parce que ça paraît utopique qu'il faut pas qu'on essaie de tendre vers cette utopie. Je pense que ça a réveillé certaines, enfin, ça a dû faire évoluer certaines choses dans l'esprit de certaines personnes. Maintenant, bah, on se rend compte qu'au final, l'humain aussi agit beaucoup en masse. Et en masse, je me demande si à terme, quand on étudiera cette crise, je sais pas, peut-être qu'elle fera juste un paragraphe dans un livre d'histoire, mais dans 10-20 ans, j'ai peur que la société tende à en fait se restabiliser. Il y aura eu cette vague et ça va se restabiliser. Maintenant, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont rester. Ça a permis notamment aussi de montrer que, bah, comme tu l'as dit plus tôt, bah, les jeunes, enfin, ça a permis aussi de redorer l'image des jeunes et de montrer que les jeunes étaient aussi capables d'agir, en fait. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui va rester. Peut-être que ça aura une portée performative pour beaucoup de monde en se disant, tiens, à ce moment-là, les gens ont fait ça, pourquoi est-ce qu'on continue pas? Maintenant, bah, seul l'avenir nous le dira. Cela dit, comme je l'ai dit avant, il faut tendre vers cette situation.
Plutôt être optimiste.
Plutôt être. Alors voilà, j'ai l'air un peu pessimiste dans ma façon de m'exprimer. Peut-être j'aurais tendance à dire rationnel, mais donc ça c'est pour les petits détails linguistiques. Maintenant c'est vrai que je pense que c'est toujours mieux d'être optimiste.
Pour finir notre podcast, parce donc on touche à la fin de cette petite interview avec notre ami Baral. Il y a deux questions que je vais poser à tous mes invités qui vont venir sur le point scout. La première, c'est comment le scoutisme t'aide dans la vie de tous les jours?
Alors, je pense que le scoutisme m'a aidé à devenir très autonome, proactif, à prendre des initiatives. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné chez tout le monde et qui est même relativement absent de beaucoup de gens, disons. Pour ça, j'ai un exemple un petit peu, disons, concret. Un ancien, pas très ancien, mais disons ancien chef, m'a expliqué que, et d'ailleurs, j'en ai parlé aussi avec ma cousine que je citais précédemment, et avec d'autres personnes, en fait, Quand on rentre typiquement dans un domaine professionnel un peu plus tard, on travaille en groupe, bah en fait on se rend compte que beaucoup de gens n'ont pas eu cette chance de pouvoir déjà avant expérimenter tout ça, travailler en groupe, prendre des initiatives tout seul. Et en fait on se rend compte que comme je l'ai dit, l'éducation scout qu'en fait qu'on a reçue est énorme, on ne se rend pas compte parce qu'on aussi on a tendance à beaucoup discuter entre scouts, on est beaucoup entre nous, enfin. On a l'impression que c'est en fait des choses normales, mais qui au final, rapportées à la société dans son entier, on se rend compte qu'on a alors sans prétention, donc on a acquis un certain nombre de qualités, comme la prise de décision, la prise de risque, enfin, l'autonomie, la proactivité, en fait, au sein des scouts, quoi. Et c'est quelque chose dont, voilà, donc mon ami me disait, bah, tu verras, dans le monde du travail, tu te rendras compte que quand tu travailles en équipe, bah, il y a beaucoup de gens, en fait, tu as l'impression qu'ils sont capables de rien faire. Et pour toi, ça te paraît évident, alors simplement, tu vas le faire. Et en fait, c'est une réflexion que tu te fais, et bah, c'est simplement parce que tu as été amené à le faire. Peut-être qu'on t'a forcé au scout à faire certaines choses, ou disons qu'il y avait peut-être une certaine hiérarchie, ou pas forcément hiérarchie, mais. Une certaine mouture, disons pyramidale, qui faisait que tac, tu faisais ça, tu faisais ça. Et en fait, à terme, bah, ça devient des automatismes. Et même les corvées, les trucs qui peuvent paraître chiants, qui peuvent paraître. Ça, on va couper. Qui peuvent paraître désagréables pour les autres, bah, toi, tu le feras en fait vite avec plaisir, comme ça, c'est fait. Et on n'en parle plus. Donc je pense que voilà, c'est proactivité, autonomie, prise d'initiative.
Très intéressant. Et dernière question. Oui.
Alors, pardon. Évidemment, tout ce que je dis, ça ne veut pas dire que c'est pas atteignable en faisant autre chose que les scouts. Là, on est dans un cadre scout, donc je donne mon expérience vis-à-vis des scouts. Maintenant, je connais beaucoup de gens qui ont acquis les mêmes compétences de façon différente. Maintenant, c'est pour moi un chemin pour y arriver au final.
Ouais, je te rejoins dans à peu près tout ce que tu as dit. Je pense que tu as bien résumé. En tout cas, pour moi aussi, ce que le scoutisme m'apporte. Dernière question pour clôturer ce podcast, c'est quoi ton meilleur souvenir au scout?
Alors moi je dirais ma promesse, parce que en fait pour moi c'est un petit peu l'apogée de ma vie d'éclaireur, de jeune chef, avant de passer au groupe, donc de chef de terrain. On a mis du temps à la relancer, enfin, ça faisait longtemps que ça germait dans mon esprit, j'ai eu le temps d'y penser, peut-être qu'elle était du coup mieux préparée que ce que j'aurais fait avant, même si elle aurait été tout autant valable. Le moment était absolument magique, on était sur une île au milieu d'un lac, faut peut-être pas le dire, mais bon. Voilà. Non, en fait, tu vas couper juste avant. On était sur une île. On était sur une île au milieu d'un lac. C'était juste magique avec le lever de soleil. Des anciens ont fait le déplacement. Donc on était dans les Grisons. Des anciens ont fait le déplacement de Genève jusque dans la vallée de Poschiavo dans laquelle on était. Donc en fait, c'est vraiment un concentré un petit peu de tout ce que j'ai fait mûrir au scout. Et donc pour moi, c'est un événement marquant qui en fait aussi. Parce que c'est une question évidemment qui est assez dure, auquel il est dur d'avoir une réponse bah, facile, qui permet en fait de concentrer un peu tout ce qui m'a fait grandir au scout et de le mettre en un point que j'appelle apogée. Maintenant, ça ne veut pas dire que je fais que descendre depuis ce point-là, mais un point en tout cas important pour moi dans mon parcours scout.
Bah, en tout cas, merci Baral pour toutes tes réponses et ta dernière réponse que je trouve très, très belle et très vraie. On sent que ça vient du fond du cœur. Merci d'être venu jusqu'à Nyon pour ce podcast. Je te souhaite le meilleur pour la suite et j'espère qu'on se recroisera bientôt. Quant à vous, chères auditrices et auditeurs, vous pouvez trouver tout le reste de nos podcasts sur notre compte Spotify et notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, @le.scout, et d'aller jeter un coup d'œil à notre site web, le.scout.ch. BPMG et à une prochaine.